Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1851 dans le premier volume de Parerga et Paralipomena, Aphorismes sur la sagesse dans la vie constitue la part la plus directement pratique de Arthur Schopenhauer. Dans la traduction de J.A. Cantacuzen, revue par Richard Roux, ce texte prend la forme de réflexions organisées, de conseils et de maximes commentées. Son objet est une eudémonologie, soit un art de mener une existence aussi supportable et aussi heureuse que possible. Le projet demeure toutefois marqué par le pessimisme philosophique de son auteur. Il ne promet pas le bonheur parfait, mais cherche à réduire les occasions de souffrance, de déception et de dépendance. Schopenhauer adopte ici un point de vue empirique, distinct de la métaphysique développée dans le monde comme volonté et représentation. Il examine les conditions ordinaires du bien-être, les rapports sociaux, la richesse, la réputation, la santé, le caractère et les usages du temps. Le livre propose ainsi une philosophie pratique de la lucidité, fondée sur la mesure des désirs et la connaissance des limites humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une eudémonologie réaliste fondée sur la diminution du malheur. Le terme eudémonologie désigne chez Schopenhauer une réflexion sur la conduite susceptible de rendre la vie meilleure. Pourtant, cette recherche ne repose pas sur la promesse optimiste de la félicité. Le philosophe part du constat que la satisfaction est fragile, brève et souvent suivie par un nouvel objet de désir. La douleur, le manque, la frustration et la crainte sont perçues avec davantage de force que le plaisir durable. Dès lors, une sagesse applicable ne consiste pas à accumuler des jouissances, mais à éviter des maux prévisibles et à ne pas transformer chaque aspiration en exigence absolue. Cette orientation explique la tonalité souvent sévère du livre. Schopenhauer ne condamne pas toute recherche de plaisir, mais il refuse de la prendre pour une boussole fiable. Il recommande plutôt de distinguer les besoins réels des ambitions entretenues par la comparaison ou la vanité. Cette démarche a une conséquence pratique, une décision doit être évaluée aussi selon les troubles, les contraintes et les regrets qu'elle peut engendrer. Le lecteur rencontre donc moins une doctrine du bonheur qu'une méthode de limitation des dommages. La prudence, la prévoyance et la sobriété des attentes deviennent des instruments de liberté intérieure. Cette conception donne au texte sa cohérence. Vivre mieux signifie avant tout se rendre moins vulnérable aux mécanismes ordinaires de la souffrance. Deuxièmement, ce que l'on éprime sur les biens et sur le regard social, Schopenhauer organise son analyse autour de trois composantes: ce que chacun est, ce que chacun possède et ce que chacun représente aux yeux des autres. La première catégorie comprend notamment la santé, le tempérament, les capacités intellectuelles, le caractère et la disposition affective. La deuxième renvoie aux biens matériels et aux ressources. La troisième couvre la réputation, le rang, l'honneur et la gloire. Cette distinction fournit une hiérarchie nette, les qualités intrinsèques pèsent davantage dans le vécu quotidien que la fortune ou le prestige. Les possessions peuvent faciliter certaines conditions d'existence, mais elles ne remplacent ni la santé, ni la capacité de trouver intérêt et paix en soi. De même, la considération publique dépend largement de jugements extérieurs, donc variables et imparfaitement contrôlables. Schopenhauer ne nie pas l'importance sociale de l'honneur, en particulier pour la confiance et les relations. Il invite cependant à ne pas confondre réputation et valeur personnelle. Cette analyse vise les conduites qui sacrifient le bien-être réel au désir de paraître. Elle conduit aussi à valoriser la formation de facultés durables: jugement, culture, équilibre du caractère et autonomie de pensée. Le critère décisif devient la qualité de la conscience vécue, non la visibilité de la réussite. Ainsi, la richesse et la reconnaissance sont présentées comme des moyens conditionnels, tandis que la constitution personnelle demeure la source la plus constante de contentement ou de détresse. Troisièmement, la modération des désirs comme réponse au cycle du manque. La réflexion sur le désir occupe une place centrale dans cet ouvrage, car Schopenhauer voit dans la volonté insatiable une source profonde de mécontentement. Désirer suppose éprouver un manque, puis espérer une satisfaction qui, une fois obtenue, risque de perdre rapidement son intensité. L'individu se retrouve alors disponible pour une nouvelle attente, une nouvelle inquiétude ou l'ennui. Les aphorismes ne proposent pas une suppression totale de la volonté, objectif qui appartiendrait à un autre registre de sa philosophie. Ils recommandent, sur le plan de la conduite quotidienne, une réduction raisonnable des désirs superflus. La modération ne signifie donc pas une glorification abstraite de la privation. Elle consiste à mesurer le prix réel de chaque projet, y compris en temps, en dépendance, en agitation et en exposition à la déception. Cette logique concerne autant les plaisirs que les ambitions matérielles ou sociales. Un niveau de vie plus coûteux peut exiger davantage de travail, de préoccupations et de comparaisons, sans apporter une amélioration proportionnelle du bien-être. Schopenhauer défend ainsi une forme de calcul prudent: il vaut mieux protéger une tranquillité accessible que poursuivre sans limite des satisfactions incertaines. Cette position peut sembler austère, mais elle cherche à rendre les attentes compatibles avec les ressources, le caractère et les circonstances de chacun. Sa portée pratique réside dans un apprentissage de la suffisance, qui limite le pouvoir des envies sur le jugement et sur la paix intérieure. Quatrièmement, solitude, culture de l'esprit et valeur du temps disponible, Schopenhauer accorde une importance particulière à la capacité de demeurer avec soi-même. La solitude n'est pas décrite comme un bien universel, puisque son expérience dépend de la richesse intellectuelle et affective de la personne. Pour un esprit sans ressources propres, elle peut révéler le vide et produire l'ennui. Pour une personne capable de lire, de penser, de créer ou de contempler, elle devient au contraire un espace de repos face aux obligations de la représentation sociale. Cette nuance distingue le texte de simple appel au retrait du monde. Le philosophe ne préconise pas un isolement mécanique, mais souligne que la sociabilité est souvent recherchée pour fuir une présence à soi jugée insuffisante. Or, les relations humaines apportent aussi rivalité, conformisme, indiscrétion et dépendance envers les opinions. La culture de l'esprit a alors une fonction pratique, elle fournit des intérêts relativement indépendants des événements extérieurs. La lecture. La réflexion et le développement du jugement ne garantissent pas une joie permanente, mais ils élargissent les ressources disponibles lorsque les distractions, les biens ou la reconnaissance font défaut. Le temps libre prend ainsi une valeur qualitative. Il ne vaut pas seulement comme absence de travail, mais comme possibilité de vivre selon des activités choisies. Schopenhauer relie cette indépendance à une prudence sociale. Fréquenter autrui, sans idolâtrer la vie mondaine, permet de préserver une part de disponibilité intérieure. Le livre défend donc une autonomie qui repose moins sur le retrait absolu que sur la capacité à ne pas dépendre entièrement du dehors. En dernier lieu, honneur, réputation et prudence dans les rapports avec autrui, une part substantielle des aphorismes examine ce que chacun représente dans le jugement des autres. Schopenhauer distingue notamment honneur, rang et gloire, au lieu de les traiter comme des formes équivalentes de valeur. L'honneur possède une fonction concrète, il concerne la présomption de probité ou de fiabilité nécessaire à la vie sociale. Il ne doit donc pas être confondu avec une susceptibilité illimitée ni avec le besoin de triompher dans chaque conflit. Le rang dépend de conventions collectives et de positions sociales. La gloire renvoie à une reconnaissance plus exceptionnelle, liée aux œuvres ou aux capacités. En séparant ces notions, Schopenhauer montre que la recherche de considération peut conduire à remettre son équilibre aux mains de publics instables. Son analyse des relations humaines demeure méfiante. L'amour-propre, la rivalité et le désir de supériorité faussent fréquemment les échanges. Cette méfiance ne fonde pas une règle de mépris systématique, mais une invitation à la réserve, au discernement et à la maîtrise de soi. Il importe de connaître les mobiles possibles des autres, sans attendre une transparence morale générale. La prudence relationnelle consiste également à éviter les disputes inutiles et les engagements dictés par la passion du moment. Dans cette perspective, la dignité ne dépend pas de l'applaudissement obtenu, mais de la cohérence entre conduite, jugement et intérêt réel. Le texte éclaire ainsi le coût psychologique de la quête de prestige et propose une gestion lucide de la vie sociale. En conclusion, Aphorisme sur la sagesse dans la vie conviendra aux lecteurs intéressés par la philosophie pratique. À ceux qui découvrent Schopenhauer par un texte plus accessible que ses ouvrages métaphysiques, ainsi qu'aux personnes qui cherchent une analyse exigeante du désir, de la réputation et de la tranquillité personnelle. Il ne faut pas y attendre un manuel contemporain de développement personnel ni une série de prescriptions uniformes. Le livre demande au contraire de confronter ses propres attentes à une vision pessimiste, parfois provocante, des relations sociales et du bonheur. Son intérêt intellectuel tient à la rigueur avec laquelle il sépare les biens extérieurs, le jugement public et les ressources intérieures. Cette grille permet de réévaluer des ambitions communes sans prétendre que la pauvreté, la solitude ou le renoncement constituent automatiquement des vertus. Sur le plan pratique, le texte fournit des critères pour examiner le coût des désirs, la dépendance envers le regard social et la place accordée à la santé, au temps libre et à la culture de soi. Il se distingue des traités de sagesse plus consolateurs par son refus de promettre une transformation heureuse de toute existence. Sa singularité réside dans une sagesse négative. Mieux vivre signifie surtout limiter les sources évitables de peine. La forme aphoristique et argumentative favorise une lecture lente, par retours successifs, plutôt qu'une adhésion immédiate à chaque jugement. Cette édition rend ainsi disponible un classique dont la force demeure la lucidité, non le réconfort. Si vous souhaitez soutenir Arthur Schopenhauer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.